Bonjour, aujourd'hui, du siècle des Lumières à celui de la pilule, une histoire de la sexualité. Le sexe et le cerveau de l'instinct. André Suarez. D'histoire. Depuis la première extase de l'homme des cavernes jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de la sexualité n'est pas celle d'un progrès continu vers la libération des mœurs. Bien entendu, on ne condamne plus aujourd'hui l'homosexualité, on ne marque plus au fer rouge les femmes adultères et on ne jette plus les sorcières sur un bûcher. Mais l'empereur romain Tibère, qui s'amusait naguère dans son bain avec des enfants qu'il appelait ses petits poissons, serait aujourd'hui en prison, accusé de pédophilie. Avec ces tabous qui ont changé selon les époques, la sexualité a une histoire discontinue. Tantôt réprimée et refoulée, comme au Moyen-Âge ou au XIXe siècle, elle a connu aussi des périodes de grande liberté sexuelle, pendant lesquelles on pouvait assouvir tous ses fantasmes. Surtout, quand au début du XVIIIe siècle, l'exemple venait d'en haut, des célèbres petits soupers du régent Philippe d'Orléans.
Ah, Philippe! Seriez-vous fâché que le père Burdeau, qui est mon confesseur, se joigne à nous?
Cette nuit?
Ben oui, justement cette nuit, comme ça il verra tout ce que je fais. Ça m'évitera de me confesser. J'adore les grands formats.
Madame, votre serviteur.
Longue saucisse et courte baisse, comme disait ma mère. Belle profession de foi, n'est-ce pas?
Émilie, Pika sera là?
Oui, je viens de le raser.
Il m'a très bien baisé l'autre nuit, il vous en a parlé?
J'étais là, madame. J'ai tout vu.
J'avais oublié.
La caisse, voulez-vous ouvrir mes huîtres?
Mais ce n'est pas mon emploi.
Quel est donc votre emploi?
Mire-balais.
Qu'est-ce qu'on fait quand on est mire-balais?
Dans une bataille, il faut des troupes fraîches. Eh bien, nous sommes des troupes fraîches. Et quand les lumières s'éteignent...
Philippe, voyons.
Voilà un métier stupéfiant.
Fabienne Castarosa, bonjour.
Bonjour.
Alors, il n'y a pas que le métier de mire-balais qui soit stupéfiant au début du XVIIIe siècle. Il y a l'extraordinaire liberté sexuelle de ce siècle. Après le puritanisme de la fin du règne de Louis XIV, dont nous avons parlé avec vous, voilà qu'arrivent les libertins, comme le duc d'Orléans, et ses petits soupers au palais royal. À quoi correspond ce relâchement des mœurs en matière sexuelle au début du XVIIIe siècle?
C'est une réaction, en fait, à l'austérité de la fin du règne de Louis XIV, qui était vraiment sous l'égide de Madame de Maintenon, qui était assez prune. Mais d'une manière plus générale, on peut dire que c'est une réaffirmation des privilèges des grands. Les libertins, ce sont des aristocrates. Les amis du régent se faisaient même appeler les roués, avec beaucoup d'arrogance, parce qu'ils savaient que s'ils étaient de simples manants, ils seraient condamnés au supplice de la roue sur laquelle on était attaché et roués à mort de coups.
Il n'y a pas que le régent, comme vous dites, il y a d'autres grands, mais vous les citez, le duc de Fronsac, qui était le futur maréchal de Richelieu, le pire, le comte de Charolais, je crois, qui a brûlé une de ses maîtresses.
Oui, en fait, lors d'un de ses soupers fins, il a mis un pétard enflammé donc dans les fesses d'une jeune veuve sous prétexte qu'il fallait que le petit bichon mange aussi, moyennant quoi cette jeune veuve a failli mourir de ses blessures.
En fait, le péché pour ces libertins, c'est pas tellement le sexe et le sexe pratiqué d'une manière absolument effrayante parfois, c'est d'aimer, c'est d'être amoureux. Au fond, c'est un peu le thème du livre de Laclos, des liaisons dangereuses, hein, il faut séduire et puis on jette celle qu'on a séduite.
Oui, le ridicule, c'est l'amour. Le libertinage, on peut dire qu'il est très cérébral et très sensuel, mais absolument pas sentimental. Et il est même parfois très très cruel. Il y a un savoir-vivre et un savoir-aimer libertin. Il y a un amour, des belles soirées, des dîners fins, des mets et des vins raffinés. Mais il y a aussi une terrifiante cruauté à l'égard de la femme dont on bafoue l'honneur. Et également à l'égard de femmes ou d'hommes, parfois, que l'on martyrise. Mais on verra ça un petit peu plus tard.
Et puis, alors, il y a la grande liberté de ton aussi dans les paroles. Il y a pas que Laclos, il y a tous les écrivains, tous les philosophes du siècle des Lumières. Il y a Diderot, par exemple, dans ses bijoux indiscrets, qui s'amuse à faire parler le sexe des femmes.
Oui, alors en fait Diderot a repris un fabliau célèbre du Moyen-Âge qui s'appelle le chevalier qui faisait parler les cons, et il reprend l'idée donc d'un pouvoir magique qui est donné à un homme de faire parler le sexe des femmes. Donc il a une bague et quand il retourne le chaton, il arrive à faire parler le sexe de n'importe quelle femme. Donc évidemment il en apprend des vertes et des pas mûres, et c'est très drôle et érotique, mais au-delà, pour le philosophe qu'il est, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de dualité âme-corps et qu'en fait la voix de l'âme émane du corps.
C'est un peu ce que dit un autre écrivain qui, dans sa vie comme dans ses livres, va pousser le libertinage jusqu'aux pires extrémités, le marquis de Sade.
Oui, j'ai été libertin. Oui, tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là, je l'ai fait. Je ne suis pas un meurtrier. Je n'ai jamais bien fait la différence entre la tête et le corps. C'est bien. Quelque nuit fait que le vide se pourra. Il doit y en avoir du foutre là-dedans. Tiens, prononce déjà ce mot. Foutre. Foutre. C'est bien. Tu n'es pas effrayé par tout ça?
Oui.
Sade, c'est vraiment une révolution dans l'histoire de la sexualité. Fabienne Castarosa, jamais on a été si loin, en fait, dans l'histoire.
Si, il y a énormément d'actes sadiques avant, mais ce n'était pas mis en roman. Il n'y avait pas de morale, de philosophie qui sous-tendait tout ça. Le sadisme, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, c'est vraiment le libertinage poussé jusqu'à sa dernière limite, c'est-à-dire la liberté absolue qui va jusqu'au crime. En tout cas, dans les romans, parce que Sade a été beaucoup moins sadique dans sa vie que dans son œuvre. Mais le sadisme, c'est aussi une philosophie du mal. Sade défendait ses positions en rappelant que la vie elle-même était la première tueuse, qu'elle ne pouvait se perpétuer que par le crime, et que donc on lui obéissait en suivant la loi de ses plus sombres désirs.
En tout cas, ça va le conduire jusqu'à la Bastille, quand le libertinage va se terminer avec Louis XV et Louis XVI. Il va y rester jusqu'à la Révolution, où Sade va défendre, je crois, et obtenir la loi sur le divorce. Alors on aurait pu s'attendre de la part de la Révolution à ce que elle fasse sauter d'autres tabous. Pas du tout, elle libère la femme par le divorce, mais c'est pour l'enfermer dans son rôle de mère et d'épouse.
Oui, en fait, les révolutionnaires étaient des hommes, et les femmes qui ont essayé de combattre à leur côté ont très vite été effectivement reléguées au statut de mère et d'épouse. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que la Révolution française, c'est une révolution de bourgeois, et qu'elle a mis à bas le régime aristocratique. Donc, immédiatement après la Révolution, et tout au long du 19e, ça affirme vraiment la morale puritaine bourgeoise contre le libertinage aristocratique.
Et le sexe redevient pratiquement un tabou auquel ne s'intéresse non plus l'Église, la Révolution est passée par là, mais la médecine qui commence à chercher ce qu'elle appelle des perversions. On avait déjà vu ça d'ailleurs au XVIIIe siècle avec un médecin, Tissot, qui avait dénoncé les dangers de la masturbation.
Oui, ce qui est paradoxal à propos du 18e, c'est que c'est à la fois le siècle du libertinage et effectivement le siècle où l'on invente une grande peur, une hantise qui est celle de la masturbation. Effectivement, un médecin suisse, le docteur Tissot, affirme que cet acte criminel affaiblit vraiment tout l'organisme, comme si le sperme ainsi gaspillé était une espèce de concentré de sang, et qu'en donc en le dispersant, on se vidait de son sang, de son énergie, de son fluide vital, et que donc on se condamnait aux maladies, à la déchéance, à la folie, et pour finir à la mort. Et au 19e, ça continue, en fait. C'est vraiment le moment où la sexologie prend son essor, mais elle reste encore très subordonnée à la morale traditionnelle. Ce que disent les médecins, c'est que tout ce qui n'est pas le coït orthodoxe, conjugal, aboutit, toujours et encore à différentes maladies, à la folie, à la mort. Donc il faut rester dans le droit chemin, surtout.
Et chacun de ces médecins a une spécialité dans la perversion, entre guillemets, ce qu'il appelle la perversion qui l'intéresse. Il y a les exhibitionnistes de Lasseg, les fétichistes de Binet, les zoophiles de Kraft Ebing. Il y aura aussi les mixco, alors c'est compliqué, hein, les mixoscopophiles, les gynécomastes, les presbovophiles, les invertis sexo-esthétiques et les femmes dyspareunies. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais alors vraiment, ça devient une maladie, au fond, le sexe.
Ah oui, c'est une obsession. Quand on lit ça, on a l'impression que l'homme n'est non pas un loup pour l'homme, mais un insecte pour l'homme examiné à la loupe. Oui, il y a une obsession de la perversion qui est en même temps une fascination. C'est-à-dire que les médecins prennent un malin plaisir à parler des perversions pour les condamner, mais en même temps, ils s'en repaissent, ils s'en délectent.
Et le sexe est une maladie surtout pour la femme. C'est pareil, hein. C'est comme dans les siècles précédents, dès qu'il y a des écarts en matière sexuelle, c'est toujours la femme qui en est responsable, ce que les médecins appelaient les fureurs internes de la femme.
Fureur utérine. En fait, le discours est double. C'est-à-dire que, à la fois, les médecins dénoncent justement cette espèce d'insatiabilité féminine qu'il faut absolument empêcher, justement en étant extrêmement réservé avec son épouse pour qu'elle ne connaisse pas de débordement de sensualité. Et en même temps, au même siècle, comme deux médecins, Pouchet et Négrier, ont parlé des mécanismes de l'ovulation, en fait, ils vont à l'encontre de cette idée et disent que la femme ne se réalise pas dans la sensualité, mais dans la maternité. Il y a même un médecin, le docteur Moreau, dans la Sarthe, qui dit qu'une femme frigide conçoit plus aisément qu'une amante comblée. Autant dire que pour la femme, c'est vraiment un très mauvais siècle. Hein. C'est le siècle où apparaît le mot frigidité, c'est vraiment pas un hasard.
Alors les femmes dont il faut se garder, surtout d'éveiller la sensualité, sinon elles risquent d'en faire profiter quelqu'un d'autre que son mari, comme ce personnage de roman, Madame Bovary, dont l'auteur, en 1857, avait scandalisé la bourgeoisie du Second Empire.
En qualité d'avocat impérial représentant le ministère public, je demande que toute nouvelle publication de ce roman soit interdite. Et que son auteur, Gustave Flaubert, soit reconnu coupable de deux délits. Offense à la morale publique et offense à la morale religieuse. Emma Bovary, une femme qui oublie ses devoirs de mère, qui manque à ses devoirs d'épouse, et qui introduit successivement dans son foyer l'adultère et la ruine. Voilà l'héroïne qu'on nous demande de prendre en pitié.
Madame Bovary, c'est tout ce que déteste le 19e siècle, Fabienne Castarola.
Oui, en fait, le 19e siècle imagine la femme soit sous la figure de l'ange, soit sous la figure du démon. C'est-à-dire qu'une femme, pour être vertueuse, doit être spirituelle, généreuse, pure, vraiment angélique. Et si elle s'écarte un tant soit peu de ce modèle-là, elle va basculer dans le registre du démon, de la putain, de la femme adultère. Et là, vraiment, elle est ravalée plus bas que terre. C'est une moins que rien.
Alors, on ne pardonne rien à la femme du 19e siècle, sauf quand il s'agit d'une prostituée. Hein. Les bordels, d'ailleurs, dans l'histoire, vous le rappelez, ont toujours été considérés avec tolérance, c'est le cas de dire, même par les autorités religieuses.
Oui, alors il y a une raison très simple, c'est qu'on considère que c'est une manière de protéger les vierges et les honnêtes femmes. Comme les hommes ont des désirs parfois puissants qu'il faut satisfaire, on se dit qu'il faut mieux qu'ils les satisfassent donc dans des bordels qu'on a parfois appelé l'égout séminal, qu'en violant les femmes d'acitoyens.
C'est saint Augustin, je crois, qui disait, vous le citez, qui défendait la prostitution, dont l'interdiction, disait-il, réduirait la société au chaos par la luxure insatisfaite. C'est ça.
Oui, et il y a même un médecin, donc parent du Châtelet, qui a repris cette métaphore en disant, je vous cite, parce que c'est vraiment trop croustillant, enfin, parlant, on va dire, les prostituées sont aussi inévitables dans une agglomération d'hommes que les égouts, les voiries et les dépôts d'immondices. Vous voyez toujours cette image de l'égout séminal.
Alors la prostitution est tolérée, les courtisanes sont même très recherchées. Hein. En revanche, pas l'homosexualité qui vaudra à Oscar Wilde 2 ans de travaux forcés en 1895.
Oscar Wilde! The crime of which you have been convicted is so bad.
Oscar Wilde, le crime dont vous avez été reconnu coupable est si détestable que je dois prononcer la sentence la plus sévère que la loi autorise. La Cour vous condamne à une peine de prison aux travaux forcés de 2 ans.
De tous les tabous du 19e siècle, l'homosexualité est encore pratiquement la plus importante, Fabienne Castarosa.
Oui, parce que ça va vraiment contre l'éthique puritaine du travail. Il ne faut pas oublier que le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de la révolution industrielle et que désormais, il faut que les hommes travaillent, qu'ils aient une saine économie de leurs finances, de leur énergie physique et de leur énergie sexuelle. Et tout ce qui est égarement du sperme, soit donc dans le cadre de la masturbation, soit dans le cadre de l'homosexualité, apparaît comme une hérésie.
C'est terrible pour Wilde, hein. Il a été condamné donc en 1895, il fera 2 ans de travaux forcés, il s'en est jamais remis, il est mort à Paris en 1900, au début justement d'un siècle qui lui va être le siècle, on peut dire, de la révolution sexuelle, d'abord avec Freud.
Oui, alors Freud, c'est vraiment la révolution de la pensée avant la dite révolution sexuelle dans les années 70. C'est vraiment un médecin qui va révolutionner complètement la façon de penser la sexualité en montrant que ce n'est pas l'origine du mal, le sexe, mais que c'est, comment dire, que c'est la répression du sexe qui au contraire engendre beaucoup de maux, névrose, de maladies, ouais. La névrose, les inhibitions, et que voilà, et qu'en fait on a tout intérêt à avoir un sain épanouissement de sa sexualité.
Autre facteur considérable dans cette révolution sexuelle qui va commencer à partir du début du 20e siècle, bien sûr, c'est la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, ça se constate dès le lendemain de la guerre, ne serait-ce que dans les vêtements des femmes.
Oui, au 19e, il fallait un bon quart d'heure pour déshabiller une femme, parce qu'elle avait tellement de jupons, de corsets, de lacets, d'épingles, voilà, qu'il fallait un bon corset. Dans les années 20, les jupes sont beaucoup plus courtes, elles sont flottantes, les chemisiers aussi, donc la main glisse facilement le long des bas ou le long d'un corsage, et effectivement, le flirt poussé, voire très poussé, est beaucoup plus facile.
Et puis alors, bon, on tolère beaucoup plus de choses. Par exemple, dans la même Angleterre qui avait condamné Oscar Wilde 30 ans plus tôt, dans les années 20, on tolère l'homosexualité de Virginia Woolf, de Huxley, elle n'est plus du tout menacée, c'est même une chose extrêmement courante, notamment en Angleterre.
Oui, il y a le Bloomsbury Group, effectivement, mais ça va pas...
C'est quoi le Bloomsbury Group?
C'est une réunion d'intellectuels. Il y a Virginia Woolf, il y a Keynes, il y a... Je les ai plus tous en tête, mais disons que c'est une réunion d'intellectuels.
Il y a Célio, je crois,
oui, voilà. Ils sont tous homosexuels ou bisexuels, et puis surtout très, très décomplexés. Ils parlent de chatte, de fellation, tout ça sans sourciller.
Mais tout ça, c'est vrai en Angleterre, ça l'est moins dans un autre pays anglo-saxon où on aurait pu s'attendre que le cinéma célèbre la sexualité, l'exalte, pas du tout. Vous évoquez par exemple cet extraordinaire Code Hays à Hollywood qui, dites-vous, mesure au millimètre les décolletés des stars et chronomètre le baiser au cinéma qui ne doit pas dépasser 3 secondes. Et encore, je ne sais pas si quel baiser c'était. Il devait être très chaste.
Oui, ben alors c'est... Mais justement, alors pour les réalisateurs, tout l'enjeu était d'arriver à contourner ce code. Et de ce code Hays est né en fait le mythe du baiser hollywoodien, qui, comme aucune autre image évoquant la sexualité était autorisée, baiser hollywoodien qui sublimait, qui représentait à lui seul la fulgurance de l'amour charnel. Donc on pense au baiser de Clark Gable et Vivien Leigh dans Autant n'importe le vent, il y a le baiser aussi vertigineux de Cary Grant et Ingrid Bergman dans Les Enchaînés, et puis, bien évidemment, celui ô combien mythique de Deborah Kerr et Burt Lancaster dans Tant qu'il y aura des hommes. Ils sont allongés sur une plage de sable chaud à Honolulu, ils s'enlacent avec beaucoup de sensualité, puis il y a les vagues là qui viennent leur lécher les doigts de pied et les recouvrir d'écume. Tout un symbole.
Même quand vous en parlez, c'est impressionnant. Mais alors, ça, attention, ce dernier baiser, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre aussi, il y a eu, par exemple, l'Allemagne nazie, elle, en matière sexuelle, ne badine pas justement avec le sexe. Elle encourage, bien sûr, les rapports sexuels pour procréer des beaux ariens, mais elle est très répressive aussi.
Ah oui, là, c'est les femmes réduites au rang de pouliches de reproduction. Et puis, c'est le retour à ce qu'on appelle Kinderkirche-Küche pour les femmes, c'est-à-dire la cuisine, l'église et les enfants. Donc, non, là, on badine pas avec l'amour.
Alors, comme la première guerre, la deuxième guerre va favoriser une grande libération sexuelle. Elle va atteindre son apogée. Essentiellement, c'est la pilule. Vous y insistez beaucoup parce qu'elle transforme, bien entendu, les mœurs. Elle libère la femme aussi, d'une certaine manière.
Oui, c'est, là encore, c'est une révolution. C'est une révolution biologique. On n'imagine pas l'importance que ça a. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le lien entre la sexualité et la procréation est dissocié. Alors que pendant des années, enfin des siècles et des siècles, il y avait cette hantise de l'enfant non désiré. Il y avait d'autres moyens. Il y avait les potions abortives, il y avait le coït interrompu, mais bon, c'était très frustrant pour l'homme puisqu'il fallait sauter du train en route, comme on dit. Il y a eu aussi des condoms, mais en peau de porc ou en vessie de poisson. Enfin, vous voyez, c'était très très aléatoire. Là, pour la première fois, on peut faire l'amour sans faire d'enfant.
Et c'était en 1967.
Pour nous aujourd'hui, nous sentons que dans cette assemblée, on votera la loi de M. Neuwirth. Et on aura raison. Car cette loi n'appartiendra à personne. Elle sera l'honneur des députés de 1967 d'avoir fait faire un progrès considérable au point de vue humain et social dans la nation française.
À une écrasante majorité, les députés ont adopté la loi sur la régulation des naissances et les contraceptifs, connue également sous le nom de loi Neuwirth ou de loi pilule.
Bah, je m'en réjouis parce que je pense que c'est une condition essentielle de la libération de la femme actuellement.
Je suis contre. La nature, c'est la nature.
Et là, je suis absolument pour la pilule, pour la liberté de la conception. Il est normal que les Françaises puissent avoir des enfants quand elles le veulent.
69 années érotiques. 69
Jane Birkin, Serge Gainsbourg, 69 années érotiques, beaucoup plus peut-être d'ailleurs que les années d'aujourd'hui, que les débuts du 21e siècle, Fabienne Costa-Rosa, on a l'impression d'une espèce de retour en arrière, même les féministes par exemple qui se mettent à combattre les publicités à caractère érotique.
Oui, en fait, il y a eu ce qu'on appelle la parenthèse enchantée, donc entre 68 et puis les années 80, donc l'apparition du sida, et aujourd'hui on pourrait dire qu'il y a un désenchantement, mais ça arrivait très très tôt. Les tenants de l'ordre moral ont très vite dénoncé donc les dérives. Et Denise, les féministes effectivement dénonçaient le fait que la révolution sexuelle se faisait selon des normes d'hommes et que le corps de la femme était marchandisé, notamment par l'industrie pornographique qui a pris un essor considérable. Et puis bon, là-dessus sont venus se greffer d'autres raisons. Il y a l'apparition du sida, il y a eu la crise économique aussi qui a fragilisé.
Vous évoquez des dérives. Bon, il y en a quand même dont on peut comprendre qu'elles soient condamnées alors qu'elles étaient parfaitement tolérées dans les années 60. Il y a des écrivains qui approuvaient même, par exemple, la pédophilie. On peut quand même admettre, comprendre que la libération sexuelle a, dans certains cas, été très loin, trop loin.
Trop loin. En fait, on se rend compte très très vite que la liberté sexuelle doit toujours s'accompagner d'une morale, d'une éthique. Comme on dit, c'est très banal, mais comme on dit toujours, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et la liberté totale, absolue, n'est pas possible. Une société a besoin de règles. Et voilà, il y a un moment où ce besoin de règles se réaffirme. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que s'il y a eu une libération sexuelle, depuis les années 70, il y a eu tout au long du 19e et du 20e siècle une libération du sentiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a cette attente, cet espoir du grand amour. Hein. Et qui dit grand amour, dit fidélité à l'autre, donc tout de suite, petite restriction de la liberté sexuelle.
Est-ce qu'on peut dire aussi, d'une certaine manière, ça rejoint un peu ce que vous dites, que la libération sexuelle, les excès, au fond, la sexualité poussée à ses extrêmes a tué l'amour?
Oui, elle tue même la sexualité, c'est-à-dire que le désir se nourrit du manque, de l'interdit. L'érotisme se heurte toujours à des frontières pour mieux les espérer ou oser les transgresser. C'est un équilibre fragile et savant et subtil.
Il y a aussi ce qu'on appelle la tyrannie du plaisir, l'espèce de surenchère à la performance en matière sexuelle.
Oui, je dirais qu'aujourd'hui, on a tous tendance à se considérer, enfin tous. On dit souvent qu'on est dans une période libérée, qu'on est des hommes et des femmes libérés, mais il faut se demander de quoi C'est vrai qu'on est libéré, par exemple, de la morale puritaine bourgeoise de nos grands-parents, mais est-ce qu'on ne suit pas, est-ce qu'on n'obéit pas à d'autres normes ? Moi, je crois que oui. Je trouve que la sexualité aujourd'hui, elle est vraiment, elle est soumise aux impératifs de l'hédonisme, de l'individualisme, parfois de la compétitivité, du jeunisme. Il faudrait être toujours beau, jeune, épanoui sexuellement et connaître des orgasmes toujours plus fous, toujours plus extraordinaires, vous voyez. Et j'imagine que ça peut être oppressant. Parfois, on voudrait peut-être être plus serein, plus... Enfin, je pensais à Louise Buñuel qui racontait donc dans ses mémoires qu'à la fin de sa vie, il avait ressenti une diminution puis une disparition de sa libido et il disait mais je remercie la vie de m'avoir enfin donné la sérénité que je n'ai pas eue toute ma vie. Et si Méphistophélès venait à moi et me proposait un regain de vitalité érotique, je dirais non, non, non. Permets-moi plutôt de boire et de fumer davantage.
Merci Fabienne Castarosa. Pour en savoir plus, je recommande vraiment chaleureusement votre livre parce que d'abord, il est bien illustré avec des illustrations qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains, si je puis dire, notamment les plus jeunes, mais il est vraiment magnifique, il est magnifiquement écrit, il est très bien documenté. C'est l'histoire de la sexualité en Occident, publié aux éditions de La Martinière.
Je vous remercie.
Vous êtes également l'auteur, j'ajoute, de l'histoire du flirt, publié chez Grasset en 2000. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Que la fête commence, de Bertrand Tavernier, Madame Bovary, de Vincente Minnelli, Wild, de Stephen Frears, et Sade, de Benoît Jacquot. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, une réalisation de Anne Comilac.
Et dès lundi, dans 2000 ans d'histoire, Patrice Jalinet vous proposera une émission consacrée à Yasser Arafat. Mardi et mercredi, deux émissions sur la guerre d'Espagne. Jeudi, à l'occasion du 11 novembre, les monuments aux morts de la Grande Guerre. Et enfin vendredi, le Troisième Reich et la musique, un sujet qui fait l'objet d'une exposition en ce moment à la Cité de la Musique. France Inter.